France Inter, le 18-20.
C'est une série ultra suivie par tous les lycéens, les bacheliers surtout d'ailleurs depuis l'année dernière. Une série à rebondissements dont la première saison s'est terminée un petit peu en eau de boudin. Il y a eu des déçus et les scénarios ont donc retravaillé à la saison 2 qui commence maintenant. Parcoursup, c'est reparti. Les premiers vœux seront rendus demain jeudi à minuit. Dernier carat, les 10 premiers vœux. Après on verra la suite effectivement qui ne sont pas classés contrairement à l'année dernière, c'est l'une des changements, l'une des nouveautés. Les vœux sont aussi anonymes. Le calendrier a été resserré. Alors, est-ce qu'on a tiré les bonnes leçons de la saison 1? Est-ce qu'on est plus fluide cette fois ou pas? Qu'est-ce qui devrait encore bouger pour que les choses soient totalement claires pour tout le monde? Vous avez donc des questions avant de remplir vos propres vœux. Vous hésitez encore. La bonne stratégie vous semble être laquelle? Est-ce que vous savez comment ça se passe si vous êtes recalé dans vos 10 vœux? Si vous avez raté votre première année de fac l'année dernière, que vous voulez recommencer vers autre chose, c'est le moment ou jamais pour nous poser toutes les questions que vous avez en tête. Ça se passe ici, soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Juliette, bonsoir, c'est toi la première. Juliette, tu es en terminale.
Oui, c'est ça, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. En Haute-Savoie. Et on t'écoute.
Ah, donc, je suis dans l'Académie de Grenoble, en terminale ES, économie et sociale, et je m'interroge pour mes vœux. J'aimerais l'année prochaine étudier à Paris, à la Sorbonne, dans une double licence qui se trouve que dans 3 académies et pas dans la mienne. Quand j'entre ce choix sur Parcoursup, on ne me met pas que je suis dans le secteur, mais on ne me met pas que je ne suis pas dedans. Donc j'aimerais savoir à peu près où je suis classée, si je suis comme les Parisiens, qui eux ont directement accès à cette double licence, ou enfin j'ai des questions par rapport à mon classement. Si j'ai la possibilité d'accéder à cette grande école ou finalement non?
Eh bien Juliette, en voilà une question concrète et on va essayer de voir si on peut y répondre aussi concrètement. Merci beaucoup, c'est une excellente entrée en matière pour vous répondre. Et comme à chaque fois qu'on parle de Parcoursup, Jérôme Teilhard est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Et bonjour Valérie Sipahi-Malani.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES FSU, Syndicat National des Enseignants du Second Degré. Vous êtes aussi prof principal, vous nous direz d'ailleurs comment ça se passe en ce moment donc avec vos élèves. Jérôme Teilhard, qu'est-ce qu'on peut dire à Juliette? Est-ce qu'elle a les mêmes chances que les Parisiens? Est-ce que c'est normal ce qu'elle voit en fait quand elle est en train de taper son choix?
Bonsoir Juliette, je crois que la réponse elle est simple pour vous. Vous avez évoqué une double licence et en fait la loi a prévu que les doubles licences lorsqu'on a dans les universités avaient un caractère sélectif. Et lorsqu'on a des formations avec un caractère sélectif, il n'y a pas de secteur. C'est toute la France, tous les candidats de France qui peuvent candidater sur cette formation. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas, par rapport à votre situation individuelle, de distinction que vous soyez dans l'Académie de Grenoble, pour votre cas ou ailleurs. Vous pouvez de la même manière former un vœu pour cette licence.
Donc il y a aucun lien géographique, on est bien d'accord. Elle qui est à Grenoble a autant de chances que n'importe qui est à Paris, à Créteil ou à Marseille.
Absolument. Sur cette double licence-là en particulier, c'est le cas et c'est la manière dont on fait les vœux sur Parcoursup.
Valérie Sipahi-Malani, c'est des choses que vous entendez de la part de vos élèves, notamment ce genre d'interrogations, pas forcément exactement celle de Juliette, mais des choses très approchantes.
Il y a beaucoup d'interrogations et puis nous, les profs de base sur le terrain, on ne sait pas répondre à tout. Il y a des dizaines de milliers. Maintenant, on doit être à 15 000, je ne sais pas, informations sur Parcoursup. Alors, il y a des règles comme pour les doubles licences sélectives, mais quasiment toutes les formations sont sélectives maintenant. Donc, c'est très difficile de remplacer. C'est difficile pour nous de renseigner comme on souhaiterait nos élèves. En fait, la difficulté principale qu'on a, c'est que jusqu'il y a 2 ans, on encadrait nos élèves jusqu'à cette époque de l'année. Les élèves disaient voilà, moi, j'aimerais faire telle formation. Et finalement, celle que je préférais, c'est celle-ci. Et donc, je vais mettre en premier, je vais mettre un vœu numéro 1 sur telle licence de chimie, puis j'aimerais bien avoir une deuxième, puis une troisième. Et là, maintenant, ils mettent une 10 ou 20 vœux. C'est pas eux qui choisissent, c'est les formations qui vont les choisir. Donc là, le problème de Juliette, c'est aussi comment est-ce qu'elle va remplir son petit mot, sa motivation, pour que quand la formation sélective va lire son dossier, la formation sélective va lui dire, ce dossier-là m'intéresse. Et donc, la difficulté qu'on a, nous, en ce moment, c'est avec nos élèves de remplir toute une série de petites cases pour chaque formation en disant qu'est-ce que cet élève va mettre en avant pour être retenu par cette formation. Et alors, ça, c'est vraiment compliqué.
Deux choses. Est-ce que ça veut dire que vous préfériez finalement lorsque les choix étaient classés par ordre de préférence.
Oui,
ou pas,
bien
comme
sûr.
L'année dernière.
Parce qu'auparavant, pour nous, l'idée, c'était l'élève choisi, l'élève indique quel est son premier choix. Or là, maintenant, il y a une sorte de marché des formations. L'élève, il fait entre 10 et 30 vœux. Et puis, c'est les formations qui iront chercher les élèves. Et donc, les élèves, pour être choisis par ces formations, doivent se mettre en avant, doivent remplir un dossier qui plaise à la formation. Et le souci que nous avons, c'est que nous ne savons pas quels sont les critères qui sont utilisés par les formations. On a bien des attendus, mais les attendus sont souvent soit vagues, soit très généraux. Donc on ne sait pas comment faire pour que nos élèves... Et puis on n'est pas non plus très heureux qu'il y ait une concurrence entre nos élèves.
Alors, Jérôme Teillard, avant de retourner au standard, deux choses. D'abord, un, effectivement, sur le classement lors du premier démarrage, des premiers vœux. L'autre classement, vous nous expliquerez comment viendra après. Et puis effectivement, le moment de la motivation, en quoi ce qui se passe derrière au moment du 3 avril doit normalement aider les élèves à affiner leur choix. D'abord sur ce classement de départ. Donc.
Alors, moi je voudrais revenir. Si on a mis fin à cette hiérarchisation des vœux, c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait des biais terribles. Le principal biais, c'est que c'est une trappe pour l'autocensure, très clairement, puisqu'en fait, on fait le vœu dont on estime qu'on est le plus susceptible de l'avoir, et pas le vœu de la formation qu'on aime le plus. Mmh. Or, qu'est-ce qui fait la réussite d'un étudiant dans ses études supérieures? C'est sa motivation, c'est son envie, et c'est ça qu'on essaye de faire exprimer par les lycéens. C'est un temps de réflexion qui est accompagné par les professeurs principaux, comme madame, précisément pour que on leur donne de l'information sur Parcoursup. Cette année, on leur affiche clairement les critères généraux. C'était une demande, et c'est un progrès de cette année. Toutes les formations affichent leurs critères, les attendus y figurent également, et nous avons apporté de nouvelles informations. Il y a une carte interactive cette année sur Parcoursup qui permet vraiment d'avoir une visualisation concrète. On cherche toujours à apporter des données supplémentaires pour que les candidats soient à même de choisir, ils soient à même de se présenter. Comment ils se valorisent aussi en indiquant à la fois leur motivation. Et c'est un travail de réflexion personnelle qui est aussi la garantie d'un choix qui est éclairé et qui est orienté.
Alors qu'est-ce qui se passe à partir du 3 avril, le moment où effectivement arrive le où on doit réellement motiver? Moi je me souviens, on en avait parlé ensemble d'ailleurs. Absolument. Ici au téléphone sonne, au moment de ces lettres de motivation où les gamins avaient un peu le sentiment qu'ils y mettaient beaucoup d'eux-mêmes et puis tout ça était un peu passé à la trappe. Donc en quoi, cette fois-ci, en ayant changé un peu la méthode, on compte plus sur sa lettre de motivation, elle a vraiment un sens ou pas du tout?
Oui, elle a vraiment un sens. Enfin, beaucoup de formations nous l'ont dit, qu'ils l'ont. Quand ils examinent, c'est aussi un élément qu'ils prennent en compte. Et nous encourageons vraiment les candidats à faire ce travail. C'est un exercice personnel de réflexion sur ce que l'on souhaite faire, mais c'est aussi un exercice à l'attention de l'enseignement supérieur. C'est le même exercice que font aussi les enseignants, comme madame, dans l'enseignement secondaire, de donner des éléments sur... Le proviseur va indiquer la capacité à réussir d'un élève par rapport à son vœu. Les professeurs principaux sur l'autonomie, la capacité de travail. Ce sont des éléments qui sont aussi des indications qui sont pris en compte. C'est ce que nous dit aussi l'enseignement supérieur. Nous sommes intéressés par ces informations-là parce que c'est le signal de la motivation aussi des élèves.
Mais quelle est la différence entre finalement le non-classement des 10 premiers vœux et le fait que de toute façon il faudra finalement donner un classement le 3 avril? Donc en fait,
il n'y a pas de classement le 3 avril.
Qu'est-ce qui se passe le 3 avril?
Rien du tout. Le 3 avril,
quand on finalise le dossier.
Non, le 3 avril, en fait, on confirme ses vœux, on finalise son dossier, mais le choix...
C'est ça, on
que
confirme,
font...
mais on remet pas d'ordre en confirmant, en fait, de la
Absolument.
Même manière.
Absolument, il n'y a pas d'ordre. Okay. Hein. Je redis, parce que c'est très important, chaque vœu est apprécié indépendamment, et finalement, le choix qu'on a fait avec Parcoursup, c'est que le candidat choisit en fonction des réponses qu'il a. Il peut avoir deux propositions, il a à faire un choix entre deux propositions, et nous avons raccourci les délais pour accélérer la procédure. C'était l'un des intérêts de ce qu'on a entendu des critiques qui ont pu être formulées l'an passé, donc on en a tenu compte, mais on a gardé ce principe fondamental qui est celui, liberté de choix, c'est toujours l'étudiant qui a le dernier mot sur Parcoursup.
Allez Maëva, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Maëva.
Merci. Alors moi je suis en littéraire, en terminale, dans les Bouches-du-Rhône, et j'ai une question notamment sur l'année de césure. Donc l'année prochaine, moi je compte faire une année de césure et sur Parcoursup, il y a rien, enfin il y a juste un petit onglet qui fait qu'on demande une année de césure, mais c'est pas du tout lié au fac ou enfin à ce qu'on demande et on sait pas ce qui se passe en cas de refus.
Merci beaucoup Maëva. Question très concrète, Jérôme Teillard, qu'est-ce qui se passe quand on est en année de césure?
Alors, l'intérêt de l'année de césure, c'est une année dans laquelle on va découvrir un autre environnement. Mais on a aussi souhaité sécuriser cette année. Il ne s'agit pas d'être dans un hors statut finalement. Lorsqu'on est en année de césure, c'est qu'on a été retenu. On a un statut d'étudiant, vous faites ensuite un cycle et c'est un contrat qui est passé entre la formation qui vous a accueilli et puis l'étudiant, précisément pour encadrer ce processus, pour y donner un sens. Et puis ensuite, lorsqu'on a fini son année de césure, on n'a pas besoin de repasser pour Parcoursup, on a la garantie de trouver la place dans la formation qui vous a accueilli. Ce que l'on demande là aux lycéens, c'est d'indiquer s'ils souhaitent faire un choix de césure. Mm-hmm. Cette information n'est pas communiquée aux formations au moment de l'examen, parce que ça sera un élément qu'elles prendront en compte pour, le cas échéant, ne pas retenir ou classer ultérieurement. Donc on ne leur donne pas. Par contre, au moment, si vous êtes Maeva retenu par la formation que vous désirez, on lui apportera l'information que vous avez coché la case « Je souhaite faire une césure ».
Donc quelqu'un d'autre pourra prendre la place de Maeva qui n'occupera pas la première année.
C'est-à-dire exactement, c'est-à-dire qu'elle aura la garantie d'avoir sa place en deuxième année et elle aura le statut d'étudiant avec le régime des bourses, l'accès aux bourses, la sécurité sociale. C'est cette garantie que l'on apporte.
Valérie Sipahi-Malani, ça sont des exemples, là aussi, des questions qui sont beaucoup posées par vos étudiants ou pas?
Oui, ça arrive. On peut avoir des élèves qui demandent, qui sont intéressés par une année de césure. Moi, ce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il est vrai que la carte interactive, c'est un plus, mais pas directement lié à Parcoursup, ça aurait pu être mis en place dans un... C'est une carte qui permet, vous cherchez une formation, vous remplissez les critères et vous avez l'ensemble des formations sur le territoire français, donc c'est vraiment intéressant. Par contre, les critères qui sont donnés par les formations sont des critères qui peuvent renforcer l'autocensure. Parce que c'est des critères qui ne sont pas toujours... j'en ai un. Bah, par exemple, une licence d'éco-gestion de Nanterre, critère, montrer un intérêt pour le monde dans l'entreprise et les domaines managériaux. Une autre licence en sciences politiques, montrer un intérêt pour la diversité des systèmes politiques. Ce sont des critères...
Pardonnez-moi, mais si on veut faire Sciences Po et qu'on ne s'intéresse pas à la diversité des systèmes politiques, vous ne croyez pas qu'on s'est trompé d'orientation? Enfin,
oui, mais ce sont des critères, vous pouvez avoir de l'intérêt, ça ne va pas vous dire si vous êtes en mesure de réussir ou pas. Et nous, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on nous demande de prédire la réussite de nos élèves de terminale dans des formations du supérieur. Or, quand nos anciens élèves reviennent nous voir, on constate que ce n'est pas forcément ceux sur lesquels on aurait parié qui réussissent le mieux. On ne voit pas dans le marc de cristal, dans le marc de café, il se passe beaucoup de choses entre la fin de la terminale et le début de l'été quand ils entrent dans le supérieur. Donc on nous demande quelque chose qui est très difficile.
Mais ça veut dire qu'il faudrait en dire moins au fond, en fait, il faudrait pas qu'il y ait ces critères dont vous parlez du tout, ou
alors déjà
plus.
Il faudrait que ces critères soient stables, parce que d'une année sur l'autre, en plus, ils ont changé. Donc là, on a un problème. Vous parliez tout à l'heure, vous, d'épisodes multiples. Moi, je parlerai de chantier permanent à l'éducation nationale. Donc on a des élèves qui réfléchissent une orientation, puis les attendus changent, donc ça c'est difficile. Et je pense par exemple aux élèves qui ont commencé une première L, qui voulaient faire de la psychologie et qui découvrent qu'il faut des mathématiques alors qu'ils n'ont pas fait de mathématiques ni en première ni en terminale, par exemple. Donc on a cette difficulté-là. Et puis sur l'information des élèves, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas travailler le projet d'orientation. L'information, ça ne suffit pas pour l'orientation. On a besoin de travailler avec l'élève sur ses véritables motivations. C'est pas parce que vous aimez l'histoire que c'est la bonne idée de rentrer dans des études d'histoire. L'histoire, ça peut aussi être un hobby. Qu'est-ce que le métier vous allez faire après? Quelles sont vos motivations profondes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, nous souhaiterions que nos élèves puissent le travailler avec les psychologues de l'éducation nationale. Or, actuellement, on a une psychologue pour à peu près 1500 élèves. Donc, c'est notoirement insuffisant. Et nous, les profs, on peut donner de l'information.
C'est avec le psychologue qu'on décide, qu'on discute de ce genre de choses.
Oui, bien sûr.
Pardon, c'est pas plutôt avec le prof principal qu'on a envie de discuter de ça?
Le prof principal, il va pouvoir donner une information sur les formations. Ensuite, est-ce qu'un élève a envie de faire un métier pour autrui? Comment est-ce qu'il ressent son avenir? Quelles sont ses motivations profondes? Ça ressort de la psychologie. On n'est pas formé pour ça. Moi, on est tous formés. Moi, je suis formée pour enseigner les sciences de la vie et de la terre. Et je fais mon travail de professeur principal en plus. Donc, je n'ai pas cette formation qui va me permettre d'entraîner l'élève vers ce qu'il a profondément envie de faire. Je n'en ai pas en mesure de faire ça.
Jérôme Teilhard.
Moi, j'entends tout à fait qu'il faut aller au-delà de l'information. Mais précisément, nous avons engagé l'ensemble des universités, l'ensemble des formations à faire des journées portes ouvertes, des séances d'immersion. Nous avons créé cette année dans les universités, il y a 5000 étudiants ambassadeurs qui sont des étudiants qui sont en première ou en deuxième année et qui sont disponibles et joignables par les lycéens précisément pour avoir un contact, pour savoir c'est quoi la vie étudiante, pour savoir quelle est la réalité, d'avoir un autre regard. Et je pense que ce qu'il faut, c'est sans doute une multiplicité d'informations pour que le candidat puisse aussi, à un moment donné, avoir précisément la connaissance de ce qu'est la formation, de sa réalité, et puis de mûrir son propre choix. Le plus difficile, c'est pas Parcoursup, c'est précisément de savoir ce qu'on a envie de faire. Et je le redis, les attendus n'ont pas changé.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut, alors je sais pas si c'est le travail des profs, si c'est celui, en quoi c'est celui de l'éducation nationale pour rajouter quoi effectivement à votre travail à vous, si c'est celui des parents, mais ce que ça dit, c'est qu'il faut effectivement se préparer bien avant l'année de terminale, en fait,
oui,
pour
mais...
avoir au moins une idée, même vague, de ce qu'on a envie de faire et de ce que ça veut dire, du coup.
On se préparera d'autant mieux que le système est stable. Si le système change chaque année avec des nouvelles règles chaque année, c'est difficile de se préparer. On a aussi, là, par exemple, avec la réforme du lycée, on rajoute encore de l'instabilité. Donc, nos lycéens, là, depuis 2-3 ans, avec entre la réforme du collège, la réforme du lycée, la réforme de l'entrée dans le supérieur, on a une génération d'élèves qui ont vécu des instabilités permanentes.
Michel, bonsoir. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute, Michel, allez-y.
Alors, moi, je ne vais pas vous faire de langue de bois, je suis un simple prof, hein, donc je ne vais pas vous sortir la langue de bois du ministère. Moi, j'observe simplement quelques phénomènes, vraiment de manière factuelle. Hein. Mm-hmm. Donc, moi, je suis formateur dans un BTS de l'éducation nationale, dans une section dite sélective, c'est un BTS audiovisuel. Donc, pour vous donner une idée, depuis déjà une vingtaine d'années, on a à peu près entre 400 et 600 dossiers pour 12 places, qui est vraiment... Très, comment on dit au ministère, je crois que c'est des taux de pression, ils appellent ça. Mm-hmm. Donc voilà, nous on observe quand même des choses vraiment très marquantes depuis APB et vraiment depuis Parcoursup. C'est par exemple, depuis Parcoursup, on n'a pas fait sur nos quatre options, on n'a pas fait une rentrée avec les effectifs au complet. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi qu'on observe maintenant systématiquement des démissions d'élèves. Voilà. Et puis, il y a une troisième chose que je pourrais rajouter, mais c'est pas forcément dû à Parcoursup, c'est qu'il y a une inégalité dans le recrutement. Parce qu'avec, par exemple, l'apparition de quotas, par exemple, pour des bacs pro, ça veut dire que, finalement, certains élèves, avec un bac pro, peuvent accéder plus facilement à des sections sélectives que des élèves qui n'ont pas un bac pro. Donc, il y a finalement une inégalité.
Mais attendez, donc du coup, pardon.
À la base, c'était une bonne idée, c'était plutôt dans l'égalité.
Mais du coup, Michel, pardon, je vais faire ma béotienne, mais j'ai pas compris, parce que je sais qu'effectivement, les bacs pro ont demandé à pouvoir entrer dans ces filières parce que lorsqu'elles sont sélectives, elles n'étaient accessibles finalement que alors, aux bacheliers qui sont des filières plus classiques. Mais là, vous me dites que du coup, il fallait pas l'offrir aux bacs pro.
Donc c'était pas vrai, pour vous donner l'exemple du BTS audiovisuel.
Pas chez vous, alors.
Les bacs pro ont toujours été pris, il y avait un examen des dossiers qui était fait de la même manière. Alors il est vrai qu'il y a souvent une autocensure, ça c'est très vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis je crois 3 ans? On a assisté dans certaines régions à la mise en place d'un système dit pilote, c'est-à-dire qu'on institue des quotas de recrutement de bacs pro dans certains BTS. Voilà. Ce qui fait que quelqu'un, puisque je rappelle que pour maintenant, comme on n'a plus le droit aux entretiens, on ne voit plus vraiment la motivation des élèves, hein, puisque maintenant on ne sait pas leur numéro de vœux, ils cliquent sur Internet un petit peu comme ils veulent ou comme ils peuvent, et puis bien souvent ils ne sont pas assez informés. Et ben on voit arriver des gens de bac pro, donc un niveau d'études, un niveau théorique qui est bien souvent inférieur à des bacs généraux. Ce qui n'est pas de leur faute du tout, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais eux, ils auront accédé plus facilement à des formations dites sélectives à partir du moment où on met un quota que des gens qui ont un bac général.
Ouais, mais vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut être plus sélectif que le sélectif, Michel. Hein. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut être plus sélectif que le sélectif.
Pas du tout, c'est pas une histoire de sélection. Enfin oui, c'est une histoire de sélection, mais de sélection sur la motivation. Comment vous voulez qu'une formation puisse recruter des gens qui veulent faire un métier avec simplement... une lettre de motivation qui est la même, parce qu'un gamin de 18 ans, bien souvent, il a recopié sa lettre de motivation. C'est pas toujours le cas, on est bien d'accord. Mmh. Il a un CV qui est malheureusement bien souvent le même que son petit copain, parce que 18 ans, c'est quand même difficile d'avoir beaucoup d'expérience. Et puis, le jeune, enfin la jeune, bien sûr, on n'a que des critères scolaires pour le recruter, pour un métier où finalement les qualités scolaires sont pas forcément les plus importantes. Mmh. Donc qu'est-ce qui se passe? On assiste à un nombre croissant de démissions. D'où une inefficacité quand même du système qui est quand même assez importante.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Michel. C'est vraiment intéressant. Valérie Sipahi-Malani, ce que nous dit ce monsieur qui est dans un BTS, lui. Du coup, comment on fait avec les élèves? Ce que j'entends là dans ce que me dit Michel, c'est on va bien être obligé de les sélectionner vraiment. Quand je vous entends, j'entends que c'est pas les choses que vous voulez voir du côté des profs.
C'est-à-dire C'est-à-dire que pour ce qui est des quotas en BTS, souvent ils n'ont pas été discutés avec les collègues dans les formations. Donc ça, il faut discuter ces choses-là. Mais nous, il faut de toute façon que les bacheliers professionnels puissent accéder à l'enseignement supérieur. Le BTS est la formation la plus adaptée pour eux, mais il faut un accompagnement aussi dans les BTS. Nous, ce qu'on avait demandé pour les BTS, c'est qu'il y ait des horaires en plus qui permettent un accompagnement renforcé pour ces élèves qui, année à année après, ont vu leur formation générale dans les bacs pro diminuer, ce qui peut les mettre en difficulté pour la réussite en BTS. Et puis un certain nombre de ces BTS ont été remplis par les commissions académiques au mois de juillet et août sur des critères parfois assez éloignés de ce que souhaitaient les élèves. Parcoursup n'a pas été globalement peut-être un grand problème pour les bacheliers scientifiques. Par contre, elle a mis en très grande difficulté les bacheliers professionnels. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On voit bien que les taux d'accès des bacheliers professionnels ont diminué dans un certain nombre de formations.
Mais je trouve toujours je ne comprends pas, parce que Michel, lui, nous explique que c'est un problème quand on est obligé de faire rentrer par quota un certain nombre de bac pro. Donc, si à un moment, j'ai l'impression qu'on se mord un peu la queue, en fait.
On ne peut pas dire aux élèves, vous allez choisir la formation qu'il vous plaît, et ensuite dire, j'ai un quota, donc je dois prendre des élèves qui prennent cette formation parce qu'ils n'ont rien eu d'autre. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'il y a une demande pour certaines formations, il y en a moins pour d'autres, mais quand vous avez un quota, vous bloquez un certain nombre de places pour des élèves qui ne sont pas forcément les premiers à demander cette formation-là. C'est toute la problématique des quotas qui est compliquée à gérer.
Jérôme Théillat.
Moi, je crois qu'il faut parler clair. Pendant des années, les bacheliers professionnels n'ont pas eu accès précisément au BTS parce que ces places étaient trustées par les bacs généraux, très clairement, et il leur restait, on les envoyait en licence dans lequel les taux d'échec étaient de 98%. Aujourd'hui, c'est un vrai choix politique de faire rentrer de manière prioritaire les bacheliers professionnels dans les BTS, précisément parce que leur formation garantit que c'est là où ils réussissent le mieux. Et que nous souhaitons que ces bacheliers professionnels, pour certains, ils n'ont pas un choix d'accès à l'enseignement supérieur, ils peuvent par leur diplôme accéder directement à l'emploi, mais d'autres qui souhaitent aller dans l'enseignement supérieur, nous avons fait vraiment le choix d'organiser une priorité, et cette priorité se traduit concrètement. L'an dernier, c'est 23% de bacheliers professionnels en plus qui sont admis dans les BTS, et c'est plutôt un progrès.
Valérie Sipahi-Mahony, pardon, allez-y, finissez.
Qu'il faut que ce soit les BTS de leur choix, c'est ça le problème.
Bien sûr, mais c'est toujours les BTS de leur choix, ils font leur vœu motivé sur Parcoursup.
Pas nécessairement quand ils sont passés en procédure complémentaire ou quand ils sont passés par la commission d'affectation académique, c'est ça le problème.
C'est toujours eux qui ont le dernier mot sur Parcoursup.
Oui, enfin, on n'a pas le dernier mot. Quand on n'a eu aucun accès sur Parcoursup et qu'on passe ensuite en procédure complémentaire ou bien en commission académique, et les bacheliers pro sur Créteil et Versailles étaient ceux qui se retrouvaient en procédure, dans cette procédure de dernier recours. Et donc, ils se sont retrouvés parfois affectés dans des lieux qu'ils n'auraient pas choisi.
Si vous invitez les formations à être plus encore engagées pour l'accueil des bacheliers professionnels dans les BTS, des bacheliers technologiques dans les IUT,
c'est pas ça que je vous dis, monsieur. Je vous dis simplement que, comme vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, on réussit mieux dans une formation qu'on a envie de suivre. Et ça n'est pas le cas de tous ces élèves, c'est tout. Je ne dis rien de plus que ça.
Une question pour vous, Valérie Sipahi-Mahony. Il y a beaucoup des questions autour de ces fameuses lettres de motivation, exactement comme l'année dernière d'ailleurs. Est-ce que les professeurs principaux, c'est pour ça que je vous la pose à vous, sont obligés d'aider les élèves concernant la rédaction de lettres de motivation?
On le fait. On le fait, on est là pour aider nos élèves, mais c'est vraiment très compliqué pour nous, parce que la lettre de motivation, en principe, c'est quelque chose qui est relativement personnel. Il faut savoir aussi que nous, dans l'interface Parcoursup, on ne voit rien que les vœux des élèves. On ne sait pas du tout on voit s'ils ont clôturé ou pas leur dossier, et puis c'est tout. Et ensuite, on voit la liste des vœux, donc on ne voit pas leur lettre de motivation, on ne voit pas non plus ce qu'ils remplissent pour éventuellement dire quels sont leurs hobbies, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, tout ça on ne le voit pas. Et donc il y a un bon nombre d'élèves aussi qui ne nous demandent pas d'aide, et ça c'est un autre problème. Et puis on voit fleurir maintenant les entreprises de coaching privé qui, pour quelques centaines d'euros, vont vous aider soi-disant à
remplir
lettre
de motivation
pavés.
Bien sûr.
Parce que vous faites plusieurs lettres de motivation, ouais. Vous en faites une par formation, c'est pas si évident que ça.
Jérôme Théillard, je suis papa d'une élève de terminale et je suis formelle, c'est ce que nous dit Pierre sur l'appli de France Inter. Parcoursup ne s'adresse qu'aux enfants qui savent faire. Quant à la lettre de motivation, heureusement que certains parents sont là, dit-il. Comment font tous ceux qui doivent se débrouiller tout seuls, ce qui va dans le sens de ce que disait Valérie Sipahi-Mahony.
On a mis à disposition aussi des outils d'aide précisément pour que les profs principaux... Il y a eu un choix qui a été fait, nommer un deuxième professeur principal pour les classes de terminale, afin que précisément on renforce cet accompagnement. Et l'objectif, c'est bien que les professeurs principaux puissent accompagner ces élèves, qu'ils aillent, lorsque certains ne sollicitent pas cet accompagnement, eux-mêmes leur proposer cet accompagnement. Je crois que, moi j'entends le mot, c'est facile de dire, il y a des entreprises privées qui fleurissent, moi je les vois pas fleurir. Aujourd'hui, nous avons demandé aux professeurs principaux précisément d'accompagner, nous leur donnons des ressources pour accompagner les élèves et nous donnons des conseils pour faire ce projet de formation motivé. C'est 1500 caractères. Et je précise, ça se fait pas simplement peut-être entre le 14 mars et le 3 avril. Ça peut se préparer en amont avec une réflexion qui est guidée par des entretiens, par des étudiants ambassadeurs qui vous aident à construire votre propre réflexion.
Enfin, les étudiants ambassadeurs, c'est sympathique, hein, c'est très bien, mais c'est notoirement insuffisant. C'est pas ça qui va résoudre le problème de l'orientation d'un élève.
J'entendais bien, ça n'existait pas. On le met en place sur 5000 cette année et on ira plus loin l'an prochain.
Non, mais c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est
bien
sympathique.
Sûr.
Voilà.
Valérie Sipahi-Mahani, voilà l'un de vos confrères et collègues. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
On vous écoute Thomas, allez-y.
Voilà, moi je voudrais. Je suis professeur principal en classe de seconde et je ne suis pas professeur principal en classe de terminale. Mais ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'avec la réforme du lycée qui s'applique dès cette année, Parcoursup, ça commence en seconde en fait. Parce que les élèves doivent se prononcer là en ce moment sur des spécialités qu'ils vont suivre en classe de première. Or, pour choisir ces spécialités, il faut avoir une vision de ce que va être leur parcours après le baccalauréat. Donc ça veut dire que l'engagement dans Parcoursup, il commence dès cette année pour eux. Et ça génère beaucoup de stress parce qu'à 15 ans, 16 ans, les élèves ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire plus tard. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Ensuite, je voulais témoigner sur la façon dont ça se passe en conseil de classe. On doit se prononcer en conseil de classe sur un certain nombre de choses, mais votre intervenante l'a dit très bien, je crois déjà, mais je voudrais le rappeler, notamment sur la cohérence du parcours de l'élève, la cohérence des vœux de l'élève. Est-ce que l'élève fait des vœux cohérents? J'étais en conseil de classe hier soir, en terminale scientifique, un élève veut faire architecture. Est-ce que nous, on sait si son vœu est cohérent et par rapport à quoi est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que cet élève a de l'intérêt pour l'architecture? On connaît ses résultats. Ensuite, c'est la capacité à réussir. Comme a dit l'intervenante tout à l'heure, on ne lit pas dans le marc de cristal. Donc on ne sait pas, nous, si l'élève il va réussir, effectivement. Est-ce qu'un élève qui est bon au lycée et qui s'inscrit en PASSELS en médecine, il va réussir, compte tenu, par exemple, de la pression psychologique? Et enfin, il y a un autre élément qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est l'engagement citoyen. C'est-à-dire que l'engagement citoyen d'un élève, mais comment on le connaît, nous, l'engagement citoyen? Parce qu'il est délégué de classe, par exemple. Donc c'est des choses qui nous paraissent tout à fait impossibles, finalement, à renseigner de façon honnête, de façon pertinente.
Mais vous pouvez au moins quand même, excusez-moi Thomas, vous pouvez quand même aiguiller un tout petit peu, c'est-à-dire, je vais le dire comme ça, je caricature évidemment à dessein, mais quelqu'un qui n'est pas du tout bon en maths et qui veut aller en médecine, vous êtes là pour lui dire que ce n'est pas la peine. Enfin, voyez, donc, est-ce qu'on, vous avez le sentiment qu'on vous en demande beaucoup plus que ça, ou pas réellement?
Ah ben, on nous demande clairement un pari, de faire un pari sur l'avenir des élèves, et je répète, ça se produit malheureusement, ça se réplique en classe de seconde. C'est-à-dire qu'en classe de seconde, on va inviter les élèves à faire des choix de spécialité qui vont les engager pour un parcours à venir 3 ans plus tard, c'est-à-dire après le baccalauréat. Et ça, c'est un risque très grand, en fait. Et c'est une dérive actuelle qu'on voit avec Parcoursup et qui se renforce avec la réforme du lycée, oui.
Valérie Sipahi-Mahani d'abord, et puis Jérôme Teilhard, je vous ai vu, je vous répondrai juste après.
Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire mon collègue. Pour ce qui concerne l'engagement, etc., c'est ce qu'on appelle la fiche avenir en langage Parcoursup. Nous avons dit à nos collègues que dans le doute, on allait renseigner de manière très positive tous ces items-là. Parce qu'on ne peut pas savoir. Donc comme on ne peut pas savoir, on met le feu vert aux élèves, sauf peut-être quand on a un grand absentéiste, etc. Mais on met un feu vert, on ne va pas barrer la route à nos élèves.
Jérôme Teilhard.
Ouais, il ne s'agit pas ni de barrer la route, ni d'accélérer la route. Il s'agit simplement, au regard d'un dialogue qui a été celui des professeurs avec leurs élèves pendant un an, au regard des vœux qu'ils formulent, au regard du travail qui a été fait d'accompagnement, de porter une appréciation qui va être utile. L'engagement citoyen, comme vous dites, vous avez une réponse oui ou non. On vous demande pas de vous prononcer sur l'intensité. On vous demande c'est oui ou non. Il y a des élèves effectivement qui sont délégués de classe. C'est un engagement au sein du lycée pour faire des actions citoyennes. Il y a d'autres élèves qui font d'autres actions à l'extérieur. Et je crois que on a tous intérêt collectivement à savoir, est-ce que nos élèves ont aussi des actions qui se font en dehors du lycée, parce que ça fait partie aussi de leur personnalité, de leur profil et de la richesse de ce qu'ils peuvent apporter pour précisément choisir des formations dans l'enseignement supérieur.
Valérie Sipahi-Maladie ?
Moi, je pense que en tant qu'enseignante, je ne suis pas là pour juger de l'engagement citoyen de mes élèves en dehors du lycée, et par ailleurs, on peut être un très bon citoyen en France sans être pour autant engagé. Donc il y a certains de ces critères qui ne sont pas des critères qui relèvent de la scolarité de l'élève. Et par ailleurs, ce qu'on observe, c'est nous sommes face à des adolescents, nous ne sommes pas face à des adultes constitués. Ces adolescents, ils ont le droit à l'erreur, on les voit évoluer tout au long de l'année, et donc c'est pas si simple de donner une appréciation sur l'avenir et sur ce qu'ils vont être l'année suivante.
J'ai jamais dit que c'était simple.
Allez, un cas très concret, c'est celui de Monique. Bonsoir Monique.
Bonsoir. Bon, je suis désolée d'appeler pour mon fils qui a 29 ans.
Mais non, je vous en prie.
Mais comme il n'est pas
il
là,
habite toujours chez vous, votre fils.
Voilà, je me permets d'appeler à sa place. Donc, mon fils a 29 ans. Il a un BTS d'aménagement paysager et il souhaite reprendre des études de biologie puisqu'avec son parcours, il a évolué. Il a envie d'aller vers autre chose. Et donc, compte tenu de son âge, est-ce qu'il doit passer par Parcoursup ou pas ?
Eh ben, une vraie question concrète, Jérôme Teilhard. Comment il fait le fils de Monique, non. Par quoi on passe quand on est déjà dans la vie active et qu'on veut revenir ?
Non, je crois qu'il y a deux choses peut-être différentes. Il y a, il souhaite faire une poursuite d'études, c'est-à-dire prolonger au-delà de son BTS et aller au-delà, c'est pas fait pour Parcoursup. Parcoursup, c'est pour la première année du cycle d'enseignement supérieur. J'imagine que votre fils, il a précisément une poursuite d'études pour s'appuyer sur son BTS et son expérience et aller au-delà. Donc ça c'est pas le rôle de Parcoursup. Mmh. Et puis, il peut aussi se renseigner, aller dans l'établissement, qui est celui qu'il souhaite pour avoir ce renseignement sur les voies qui vont l'amener à faire son choix. Parcoursup, c'est simplement la première année universitaire. Donc si votre fils est déjà avec un bagage supérieur, c'est peut-être de l'amener à prolonger ses études, mais en se renseignant sur d'autres voies que celle de Parcoursup.
Mais le sens de la question de Monique, si je comprends bien, c'est comment on fait pour avoir une place je dis n'importe quoi, imaginons le BTS de notre auditeur tout à l'heure où il y avait 19 places, comment il situe lui par rapport à ces 19 places-là ? Est-ce qu'il remplit un papier de quoi pour dire qu'il veut revenir en première année ? Comment ça se passe en fait ?
Quand on veut, sur Parcoursup, on peut, quand on est en reprise d'études, se présenter. Simplement, ce que l'on sait, c'est que c'est pour une première année d'un accès à un diplôme. Et là, c'est ouvert à la reprise d'études. Et il y a notamment une nouvelle rubrique qui a été mise en place cette année, activité centre d'intérêt, précisément pour ces publics, pour illustrer une expérience professionnelle, une compétence particulière. Donc, on a sa place sur Parcoursup quand on est en reprise d'études. Simplement, le choix par rapport au cas du fils de Monique, c'est précisément de savoir s'il va prolonger au-delà du BTS et aller vers une troisième année, finalement. Et à ce moment-là, ça n'est pas Parcoursup. Ou s'il reprend des études à la base, sur une première année, et auquel cas, c'est sur Parcoursup qui doit s'inscrire.
Tiens, puisque nous avons Erwan qui nous dit, on entend beaucoup de critiques par rapport au système. Moi, pour ma part, je trouve que ma fille a été bien guidée. C'est important aussi de le dire aussi pour certains. Il y a Dominique qui va dans le même sens et qui dit, il y a quand même du positif dans Parcoursup. Il y a plus de places réservées aux postulants de la région. Mon petit-fils, avec un dossier finalement banal, a ainsi pu intégrer STAPS. Comment ça marche, Jérôme Teilhard, dans les régions, justement, la priorité régionale, elle fonctionne comment ?
Alors, en fait, il y a une règle assez simple. Quand vous êtes sur des formations sélectives, et on a apporté une meilleure information pour que les candidats puissent bien voir ce qui est sélectif et ce qui n'est pas sélectif. Lorsque c'est sélectif, il n'y a pas du tout de sectorisation. On peut, quel que soit l'endroit de France, et voire même hors de France, candidater. Lorsqu'on est sur des licences à l'université, qui sont non sélectives, il y a une sectorisation qui intervient lorsque, finalement, il y a beaucoup plus de candidats qu'il n'y a que de place. Et avec un choix qui est de donner une priorité à ceux qui habitent dans l'académie. Et nous travaillons sur ces sujets, et cette année, je dis une mesure parce que on a bien mesuré notre expérience de l'an passé, sur l'Île-de-France, pour l'accès à l'université, il n'y a qu'une seule région, qui est celle de l'Île-de-France, que l'on habite Créteil, que l'on habite Versailles ou que l'on habite Paris, on peut de la même manière se porter candidat sur une formation qui se situe intramuros à Paris.
Allez Chantal, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute Chantal.
Alors voilà, moi j'ai une question qui porte sur le mouvement des enseignants qui a lieu actuellement dans l'Académie de Nantes, enfin en tous les cas dans l'établissement de mon fils, qui est en terminale, et les enseignants ont décidé, pour manifester leur opposition à la réforme Blanquer, d'appliquer des notes de 20 sur 20, coefficienté 50, donc un très fort coefficient, qui modifie considérablement la moyenne des élèves. Actuellement, nous ne savons pas de quelle façon. Enfin, ma question, voilà, est de savoir si les bulletins dans ces conditions-là peuvent être remontés dans Parcoursup, puisque ce sont les établissements qui font remonter directement l'ensemble des bulletins pour Parcoursup, et ça pose la question des disparités qu'il peut y avoir entre les établissements où aucun enseignant n'adhère à cette façon de faire pour lutter contre la réforme Blanquer. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris.
Si, si, on a compris votre question, Chantal. C'est pour vous, Valérie Sipahi-Malani, plutôt.
Oui, bien sûr. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les enseignants, ils veulent rien d'autre que le bien de leurs élèves. Et évidemment, alors les élèves de terminale, ils peuvent nous dire, vous faites des mobilisations, vous nous gâchez notre année de terminale, alors que c'est les suivants qui vont avoir la réforme du lycée, soit. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'avec la réforme du baccalauréat, on va avoir un baccalauréat qui aura une valeur très différente d'un établissement
mais
à l'autre.
Mais est-ce que le dossier, la question de Chantal,
Je termine. Et donc, il y a actuellement différents types de mobilisation. Il y aura certainement une sortie de crise. Il ne peut pas ne pas y avoir de sortie de crise. Et là, moi, mon message, c'est il serait bon que le ministre entende un tout petit
D'accord.
peu ce que les enseignants lui disent.
Je vais quand même poser la question.
Moi, je n'ai pas de solution technique. Je dis simplement, politiquement, il faudra une solution de sortie de crise.
Parce que la question de Chantal, c'était est-ce que le dossier de mon fils est faussé pour l'instant, oui ou non, en fait.
Alors là, c'est M. Théillard qui va répondre. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais pour le moment, on est dans une mobilisation pour obtenir des réponses de notre ministre qui est silencieux.
Jérôme Théillard, est-ce que le dossier du fils ou de la fille de Chantal est faussé ?
Dans Parcoursup, c'est évidemment pas Parcoursup qui fait les notes des élèves. Ce sont les enseignants au regard du travail qu'ils font avec les élèves. Moi, je ne comprends pas bien qu'on puisse instrumentaliser quelle que soit la cause finalement qu'on défende, et elle ne peut pas passer par l'utilisation des notes des élèves, parce que vous comprenez bien l'interrogation que porte Chantal, que portent des élèves. On le voit sur Twitter, beaucoup d'interrogations sur ce mouvement-là. Je crois que le ministre y fait aussi son action en direction des recteurs pour parler aussi à ses enseignants, parce qu'on peut pas utiliser cette méthode. Moi, je ne fais pas les notes sur Parcoursup. On prend les notes telles qu'elles nous viennent des lycées, telles qu'elles viennent des enseignants, parce que ce sont eux qui travaillent dans les conseils de classe et on leur fait confiance.
Alors, il nous reste très peu de temps. Je voudrais l'un et l'autre que vous nous donniez votre avis sur les dossiers désormais anonymisés. Valérie Sipahi-Malani.
Ils sont pas anonymisés. En fait, nous, ce qu'on demandait, d'abord, qui est éventuellement anonymisé, c'est le nom, l'adresse, mais dans les pièces jointes. Et dans les pièces jointes, ça continue d'être là. Quand vous avez un diplôme en plus ou quoi que ce soit que vous mettiez avec, ce sera là. Et puis, le lycée n'est pas anonymisé. Mm-hmm. Alors pour nous, le gros problème de Parcoursup, par exemple, moi je suis dans un lycée qui ne recrute... on a des élèves qui voudraient rentrer dans une université parisienne qui a sa liste de lycées, elle ne recrute que sur ces lycées-là. Donc tant que mes élèves demanderont cette faculté et cette formation avec le nom de mon lycée, on sait qu'ils n'y arriveront pas. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que les lycées soient anonymés. D'autant plus avec la réforme à venir du baccalauréat. Là, le poids des lycées va être encore renforcé si jamais cette réforme se met en place. Donc il faut absolument anonymer le nom du lycée.
Anonymé d'ailleurs, pas anonymisé. Donc
pardon, je ne sais pas. Peut-être que je fais une faute de français.
Moi aussi, autant pour on a un partout entre vous et moi. Jérôme Théillard, puisqu'on met pas le nom de l'élève, pourquoi pas ne pas mettre le nom du lycée ?
Moi, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a eu un ressenti qui s'est exprimé, qu'on a vu avec une forme de défiance, avec des lycéens, des étudiants en orientation, disant on pense qu'on est discriminé parce qu'on habite à cet endroit ou parce qu'on a tel nom. La réalité des faits, telle qu'on a montré dans les chiffres, elle ne montre en aucun cas une discrimination. Le défenseur des droits lui-même qui s'est investi sur cette question-là, il a des observations, mais ce qu'il constate, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. La ministre a souhaité entendre cette question-là. On fait un premier pas sur l'anonymisation, mais sur la question du lycée, je le redis, il y a aujourd'hui, dans les lycées, 80 000 lycéens qui sont dans des cordées de la réussite, où précisément les universités vont avec des lycées dans lesquels il y a du public en difficulté. Si on masque le nom du lycée, on met fin à ces dispositifs qui sont souhaitables.
Allez, c'est le premier téléphone sonne Parcoursup de cette saison, si je puis dire. C'est certainement pas le dernier. Merci à tous et portez-vous bien.
Merci beaucoup.